La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Kleenex.
Le temps, c'est de l'argent. Et avec Kleenex, les rendez-vous sont rapides.
Le calcul est simple. Infiltration, mammographie, échographie, radiographie. Vous avez votre prescription. KleenexImagerie.com.
3 Kleenex. Un numéro. 653-9933.
Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
Pierre-Yves, bonjour.
Salut.
Comme dans la chanson, tu aurais voulu être un courtier immobilier?
En fait... Je voulais montrer l'envers de la médaille aujourd'hui parce que, évidemment, avec un marché d'effervescence comme on le connaît présentement, beaucoup de personnes rêvent de le devenir et beaucoup de personnes se choquent de voir des gens faire 30 000 $ sur une vente qui a duré 2 jours. On s'entend, tu vends l'actif de quelqu'un d'autre dont tu n'as pas pris le risque d'affaires, le prix de possession, le risque de crédit. Tu n'as rien fait. Tu as été l'intermédiaire de quelques jours d'une transaction financière dont le risque n'était pas le tien. Et évidemment, avec la hausse des prix, ben, veux, veux pas, une commission de 4-5 % sur 200 000, c'était quelque chose. Mais une commission de 4-5 % sur 500, 600, 700 000, 1 million, là, tu commences à te dire, coudonc, on devrait-tu redresser ça, le pourcentage? Ça, c'est un grand débat qu'on pourrait avoir en société.
Mais il y en a qui le négocient. Je sais que ça se...
Oui, mais c'est sûr que ça se négocie. Souvent, c'est une maison de 4 millions, puis quasiment en 2 jours. C'est sûr que tu pourrais le négocier. En même temps, il n'y a pas le même marché. Mais moi, je voulais être du côté des courtiers aujourd'hui pour parler de l'offre et la demande.
Ouais.
Parce que le courtier, là, on va être honnête sur une affaire. C'est plus comme dans les années 80 où ta valeur était de faire des annonces, tu dépensais une fortune en annonces dans les journaux locaux pour faire la promotion de tes maisons pour tes clients, puis que là, les gens apprenaient quelle maison était à vendre en regardant le soleil. Tu te souviens de ça, Sylvain? C'est notre époque. Mais là, aujourd'hui, l'affaire, c'est que bon, OK, l'information pure et parfaite, elle est connue. Si je veux savoir combien ça se vend un immeuble dans mon coin pour telle grosseur, c'est tout écrit sur Internet, je peux le savoir. Donc, la valeur est autre chose. Elle est dans le service, c'est ailleurs. Et c'est pour ça que ça accélère les transactions immobilières. Mais, as-tu déjà été voir le nombre de courtiers au Québec? Moi, c'est là que je t'amène.
Ouais, il y en a beaucoup, je pense, non?
Oh, ben, on est quand même... Écoute, en février 2021,
ouais.
OK... Le nombre de ventes qu'il y a eu au Québec, OK, par plage de prix, ça dérange pas, mais il y a eu 16 000 ventes au Québec, OK, en février 2021. Mais sur les 16 000 ventes, faut pas que tu oublies qu'il y avait, tu sais, il y avait beaucoup de monde qui pratiquait le métier de courtier. Parce qu'au Québec, si tu fais la sommation du nombre de courtiers puis d'agences, selon l'OACIQ, tu es à 15-16 000 aussi. Et donc, ça veut dire qu'en moyenne, il y a une maison par courtier dans le mois de février. Tu me suis?
Ah ouais, ben oui.
Et donc, il y en a qui en vendent 5, 6, 7, puis il y en a qui en cherchent une. Et donc, c'est pour ça que dans toutes les régions, ça doit être pareil à Québec, là, il y a de ce qu'on appelle des courtiers vedettes. On les voit partout, ils se promènent en BMW, leur face est sur le pont, tu sais. Ils ont une équipe en dessous d'eux parce que c'est rendu qu'ils vendent des maisons avec d'autres courtiers, mais c'est leur face que ça pas en carte. Parce qu'avant, en plus, que le courtier junior. Puis le courtier junior, il donne une cote à la vente parce qu'il fait partie de la grosse équipe. Okay, on est à Montréal, il est comme ça. Il y en a en Outaouais, il y en a à Québec. Donc, ceux-là vont capter beaucoup de marché parce que la force d'un courtier, c'est quoi? C'est d'être attirant pour le vendeur. C'est de dire, hey, moi, si je veux vendre ma maison, ça va être avec telle personne. Avec lui puis elle, ça vend pas à peu près. Et donc, quand tu commences, là, t'es face au préjugé que les gens pensent que tu fais de l'argent, mais t'as les mêmes, t'as des coûts fixes relativement semblables d'un bureau à l'autre, mais t'as pas les mêmes revenus. Et donc, c'est peut-être pas que les commissions sont pas au bon prix. C'est peut-être pas que les maisons se vendent trop rapidement. La question, c'est peut-être qu'il y a trop de courtiers par rapport aux besoins du marché. Et si c'est le cas, ben on est off demande, puis on en forme à chaque année, puis l'or attire l'or, hein, donc on attire du monde là-dedans parce que ça a l'air payant. Je sais pas si tu as vu, il y a plein de jeunes qui font des vidéos, là. Ils font de la boxe. Tout le monde, un kid fait de la boxe, fait du yoga le matin, puis dis-moi, je fais de la méditation pour être courtier, puis tout ça. Tu sais, il y a des vidéos promotionnelles des personnes.
Ouais, c'est correct.
Mais au bout du compte, ce que je voulais te dire là-dedans, c'est il y a quand même beaucoup d'appelés, mais peu d'élus dans le success story de l'immobilier.
Ouais, ben c'est toujours facile de l'extérieur, hein, souvent, d'avoir un point de vue. Puis il y a une autre affaire aussi qu'il faut ajouter, c'est qu'actuellement, on le sait, c'est pas pour rien que les prix sont élevés, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des maisons. On en jasait avec Jean-Jacques, avec Nathalie Normando, mais Mais exact. Notamment parce que beaucoup de personnes âgées, semble-t-il, ne veulent pas aller en résidence pour personnes âgées. Ils ont des maisons, là. Fait que là, ils veulent pas vendre. Donc, les courtiers, même s'ils font des bonnes ventes parce que les prix ont augmenté, mettons que tu disais tantôt, au lieu de 300-400, mettons qu'ils en vendent une 500, mais ils en vendent moins parce qu'il y a moins de produits de maisons sur le marché.
Ben, Sylvain, on va revenir avec la courbe démographique. On parlait avant, tu sais, on avait dit, ah, à un moment donné, les boomers vont s'en aller en résidence, puis ils vont faire de la place, puis là, il est arrivé quelque chose qu'on n'avait pas planifié. Les boomers, là, ils ont 75 ans, mais c'est mes parents, ça, là.
Oui.
Ça leur coûte bien moins cher rester chez eux qu'aller en résidence personne âgée.
Ben, ils sont plus en
vraiment
forme.
Vraiment moins cher.
Ils sont plus
cher.
En forme, puis avec ce qui s'est passé depuis un an dans les résidences pour personnes âgées, il y a un impact psychologique aussi, là, de la pandémie. Ils veulent pas y aller. Fait qu'ils veulent plus
attention, là. Personne, ça y tente. Il n'y a pas. Des résidences pour personnes âgées de luxe,
oui.
Qui sont des appartements. Qu'il y a du service, que le monde veut vivre comme ça. Mais il y a des gens qui veulent pas quitter leur mode de vie. Puis moi, j'ai souvent dit à mes propres parents, « Hey, avant que ça vous coûte chacun 2 000 $ par mois vivre chez vous, là, on peut vous en payer des traiteurs, puis de l'aide ménager, puis une infirmière à domicile, puis un homme ou une femme à tout faire, puis de l'entretien en sous-traitance, puis réparer le toit. » Ce que j'essaie de dire par là, c'est il y a un faux calcul de penser qu'une résidence pour personnes âgées, avant le CHSLD, on parle, là, pas quand t'es rendu en perte d'autonomie, là, mais quand t'as une demi-perte ou une demi-fatigue, tu sais, moi, ça commence, là, j'ai 41 ans, j'ai mal au coude, là. J'imagine même pas que ça va avoir de l'air à 82 ans, OK? Mais tu peux t'en payer du monde. Mon voisin, là, il est mort à 86 ans, OK? Il est resté chez eux jusqu'à 84 ans. Il se payait quelqu'un pour mettre son abri Tempo, puis il payait quelqu'un pour faire des soupes, puis il payait quelqu'un. Puis il y avait des calculs que crime, ça coûtait moins cher vivre chez eux dans son duplex à Montréal que dans la résidence. Puis il était
mieux. Ma mère a 86 ans, t'es encore dans sa résidence.
Ben oui.
Encore, puis ça va bien, mais exactement comme tu dis, de temps en temps, elle a besoin d'aide, mais elle vit dans un petit village où tout le monde se connaît et elle connaît tout le monde. Donc,
ben,
la solidarité est forte, puis bon.
Sa mère a 87 ans, puis elle garde son argent pour ses vieux jours. Fait que, tu sais, non, mais ce qu'on veut dire par là, puis, et c'est pour ça que dire que dans le marché immobilier, regarde, on regarde des statistiques devant moi,
ouais.
À Québec, par exemple, puis Montréal. Fait que Montréal, mettons, sur 15 000 courtiers inscrits, là, t'en avais 6 200 à Montréal. Puis dans la capitale nationale, t'en avais 1 000. Et si t'arrives au Gaspésie de la Madeleine, t'en as combien?
Combien?
5.
Mais voyons donc, toi.
Oh, mais parce que le marché doit être petit. Oublie pas, là, t'as du kilométrage à couvrir, puis c'est pas tout qui est à vendre. Ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, je te donne un exemple, la Nosière. Un courtier immobilier à la Nosière, là, il va en faire du Milan. T'sais, il va aller se promener Chelsea, Saint-Alphonse-Rodriguez, Sainte-Béatrix. Un courtier immobilier à Montréal, il va pas faire Rosemont, il va faire une portion de Rosemont.
Ouais, souvent ils sont spécialisés centre-ville ou ville
Montréal. Il y en a, je pense, ouais. Avant les maisons dans 1 km², je blague à peine, OK? Ben, les a toutes. Chaque fois qu'il y a quelqu'un vend, il appelle cette madame-là. Mais regarde, dans le fond, là, avant des maisons 800 000 $, là. Comme ça.
Ouais.
Imagines-tu la commission là-dessus?
Mais sur ton raisonnement de départ,
c'est 20
t'as parfaitement
ans de...
raison. On pourrait, 20 ans. On pourrait l'étendre aux avocats et à d'autres professions. Quand le monde dit, les courtiers immobiliers, ces temps-ci, ça doit tout rouler sur l'or. Ben, d'abord, il y en a qui travaillent très fort, tu le dis, puis qui font de l'argent, puis c'est mérité. Mais quand il y en a beaucoup, le meilleur exemple, c'est les avocats. La moyenne de salaire des avocats est extrêmement faible au Québec, la moyenne. Pourtant, il y en a qui font 1 million et plus par année. Là. Mais c'est
Mais
avocats.
C'est comme les comptables, dire. C'est une question de marché. C'est-à-dire, tu sors d'université, je te donne un exemple, la différence des avocats. Les comptables.
Ouais.
T'es engagé dans un grand bureau de comptable, on te signe à. Tu sais, en sortant de l'université après ta maîtrise, là, ton DES, excuse-moi, là, 39 000 $. Puis si j'avais été dans un grand bureau d'avocat, j'aurais fait le double. Mais c'est pas la même réalité. Parce que les bureaux comptables, c'est une hiérarchie en pyramide. C'est-à-dire, t'as un élu pour beaucoup de monde en bas. Tandis que les bureaux d'avocats, c'est plus un trapèze. C'est-à-dire qu'il y a plus de partners par junior, tu comprends?
Oui,
et donc,
oui.
les grands salaires, il y en a moins, il y en a plus, mais ils sont plus moyens, les salaires. Mais ça dépend toujours quel droit tu fais, quel type d'entreprise tu couvres. Mais là, les grands bureaux d'avocats, c'est bien arrivé la même chose que dans toutes les professions. C'est qu'une moment donné, là, les gros bureaux au centre-ville avec les gros paiements,
ah,
ouais. À un moment donné, les entreprises se sont virées. Ils disaient, nous autres, on paye-tu pour le prestige ou pour l'expertise? Et il y a des gens qui se sont partis des bureaux de moyenne taille pour leur expertise dans un domaine précis, sans avoir 200 avocats pour eux autres, il y en a peut-être 2, 3, mais ils ont ciblé une niche. Et c'est les mêmes personnes qui auraient travaillé dans les grands bureaux, mais qui ont choisi un autre mode de vie. Et ça, au niveau des comptables, ça se voit. Moi, quand j'étais à l'université, t'avais le Big Four, Big Five, ça dépendait de quelle année, là. Mais il y avait 4-5 grands cabinets que tout le monde voulait travailler là parce que c'était prestigieux. Puis depuis ce temps-là, les moyens cabinets, les cabinets de moyenne taille se sont multipliés. Et puis là, tu as des gens qui préfèrent être associés plus facilement dans un cabinet où ils vont faire 200 000, plutôt que de viser faire 800 000, mais d'être un élu parmi...
Ça...
Puis laisser ta vie sur le carreau.
Ça, c'est le fameux adage « small is beautiful ». L'autre jour, j'écoutais, là, ben, ça fait longtemps, dans le temps qu'on me fallait d'un bar puis d'un restaurant. Là. Ces deux personnes sont dans le transport, OK? Puis là, ils se comparaient. Lui, à tant de camions, l'autre, à tant de camions. Il y en a qui était vraiment plus petit par rapport à l'autre big. Mais à la fin, là, tu sais, sans parler en comptable comme toi, là, ils connaissent ça un peu, là, le Baya puis toutes ces affaires-là.
Oui.
Mais ben, lui... Le plus petit, là, il en restait plus dans les poches que le gros, gros, gros. Puis ça, moi, je l'entends de plus en plus. T'as parlé des bureaux, t'as parlé... Des fois, être gros, c'est bon pour le prestige. T'as une grosse annonce, t'as un nom connu, que ça soit un avocat ou dans n'importe quel domaine. Des fois, ta petite boutique, t'en as rien qu'une, là. T'es plus petit, mais à la fin...
Les coûts fixes sont pas élevés.
C'est tout le temps ça.
Si tu vends ton service professionnel 150$ de l'heure et non pas 500$, mais que t'as pas besoin de 300 clients pour toujours être au niveau, ben peut-être que justement c'est suffisant pour toi. Moi je dis tout le temps, j'adore mon état des résultats de comptable. Il me dit pourquoi? Mais parce que je génère des revenus, puis j'ai minimisé mes coûts au maximum. Donc non, je n'ai pas le prestige du chiffre d'affaires d'une grande entreprise, ni d'une PME qui génère des millions, mais j'ai une quiétude quand je dors, de pas avoir de bureau commercial à payer, de pas avoir d'employé, de pas avoir de payroll. Et ça, c'est chacun ses choix, puis tu l'as dit, Sylvain. Ça dépend du monde. Mais les coûts fixes, c'est sûr que ça fait mal. Prends par exemple les producteurs TV. Les producteurs télé, à une époque, là, c'était des gros coûts fixes. T'as entendu parler des gros noms, l'attraction et compagnie. Mais là, ils ont des grosses dépenses, des gros bureaux, des grosses affaires. Mais quand la business roule moins bien qu'avant...
Les coûts fixes sont
plus ton paquebot, il est gros, plus il est dur à tourner de bord.
Exact.
T'sais,
des fois, t'es mieux de rester petit. Merci, Pierre.
Exact.
Merci.
Salut.